Les négociations.
Mais du coup, ça nous fait une super transition pour
Les
la suite un peu
négociations.
de ce qu'on aimerait bien expliquer dans cette dans ce long bavardage, qui est les fameuses négociations. Et du coup, sur le truc d'occupation, pareil que ce qu'on a expliqué au début de ce document audio-là, il y a un truc de ça sort pas de n'importe où, un peu ce qu'on en demande dedans, mais que c'était pas évident que ça allait se faire par négociation, on va dire, quoi. Et que du coup, avant l'abandon de l'aéroport, il y a déjà eu cette histoire de délégation intercomposante. Comment on ferait pour avoir quelque chose de commun qui représente donc ces fameux mouvements, à la fois en termes de qui c'est qui va y causer et de qu'est-ce qu'on en dit. Voilà, donc ça a été vraiment compliqué d'en arriver jusque-là. Il y a plein de gens qui ne se sentent pas du tout d'aller négocier avec l'État, que c'est quelque chose que politiquement, les occupants-occupantes notamment, c'est pas du tout notre culture politique. Là, c'est se rendre dans un bureau avec des cravateux et des gradés, et ça fait un peu chelou. Du coup, voilà, on a décidé de quand même participer parce que, étant donné que le reste du mouvement, est-ce que ça a impliqué y aller? On s'est dit, on peut pas ne pas y aller et faire scission là-dessus. Ça risque à la fois, on risque d'y perdre trop de choses, de pas être sous-représenté dans nos idées, voire pas du tout. Et à la fois, bah, ça faisait du sens de rester groupé là-dessus pour bah, ce truc-là de mouvement uni. Déjà que c'est la galère, si en plus on se séparait sur des trucs aussi importants, je vois. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on choisisse des gens.
Et puis, bah, je trouve aussi avec la complexité dans le mouvement d'occupation, on est hyper diversifié, il y a plein de conflits de clivage, et encore plus en ce moment au vu de la situation. Et du coup, partant de là, comment on arrive à choisir des personnes en qui tout le monde a confiance et que tout le monde se sente représenté par ces personnes-là. Enfin, ça faisait beaucoup d'enjeux, quoi. On veut pas voter, on veut trouver des gens qui inspire de la confiance un peu globalement, on veut trouver des gens qui sachent tenir un mandat, qui captent un peu, qui sont là depuis suffisamment longtemps pour comprendre les enjeux avec les autres composantes, les enjeux de la négociation, etc. Et du coup, moi je trouve que ça a été un truc comme vachement intéressant de devoir se poser toutes ces questions, de comment choisir ces personnes-là. Moi j'ai l'impression, plutôt, on a décidé d'y participer, mais avec évidemment beaucoup de doutes et beaucoup de réserves. Parce qu'en fait, on ne sait pas si. Bon, et c'est pas dans notre culture, comme tu as dit avant. Et puis, en fait, juste, on a assez peu de confiance dans le fait que c'est un bon moyen d'obtenir des trucs. Et que, du coup, on envoie des gens qu'on aime bien faire un taf dont on n'est pas sûr de s'il va fonctionner. Et dont on sait, par contre, qu'il va être très chronophage et très chiant et assez dur psychologiquement pour les gens, qui vont avoir de la pression sur leur gueule, etc. Du coup, bon, en vrai, on voit un peu des gens au casse-pipe, quoi.
Le processus qui a été proposé, c'était de se retrouver à plein d'individus sur une journée d'abord pour faire une liste de jusqu'à 8 noms qui soient diversifiés en termes de genre, mais aussi de...
position politique. Il n'y a pas de volontaire, c'est un truc de base là. On s'est dit qu'on voulait pas qu'il y ait de volontariat. Du coup, c'est que de la désignation. On va mettre sur des papiers qui on veut qu'on y aille.
Grosse nuance.
Et au bout de ce premier processus, il y a une quarantaine bonne trentaine de noms qui sont ressortis plus ou moins de fois.
C'est que sur les 30 et quelques qui sont sortis, les gens du processus ont décidé de garder que les 20 et quelques premières. Ils sont ensuite allés voir ces personnes-là, savoir est-ce que éventuellement tu veux bien continuer à être sur cette liste. Et qu'à la fin, il restait 17 personnes sur la liste. Attends, plus de personnes ont dit non finalement.
On s'est dit 14 c'était trop, et que c'était pas assez diversifié, ou que certaines personnes elles avaient un veto, ou que, en tout cas, il y avait une surreprésentation d'un certain groupe politique sur zone. Et donc, on est arrivé à un groupe de travail de 11 personnes, parmi lesquelles 3 déléguées ont été choisies, et 3 suppléantes.
Okay, du coup, les 3 délégués, c'est les personnes qui vont physiquement aller au truc de rendez-vous de négociation avec des délégués et des autres composantes, quoi.
C'est ça, afin de former du coup ce fameux groupe intercomposante qui va aller discuter avec l'État.
Premier rendez-vous à la préfecture demain, mercredi 28 février, avec la délégation intercomposante qui est constituée de 9 membres, 3 du mouvement d'occupation et une déléguée pour les autres composantes.
C'est donc l'heure de la seconde interro-surprise, après les 6 points. Qu'est-ce que l'on va négocier ? Alors, vous avez 5 minutes.
On va négocier le gel de la situation et l'amnistie.
Bah, dans le gel de la situation, il n'y a pas d'expulsion et le gel de la redistribution institutionnelle des terres. Mmh. Et ça fait pas mal de trucs. Mais ça, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Enfin, je veux dire, c'est peut-être qu'il faut raconter pour expliquer pourquoi ça se passe comme ça. C'est comme la négociation, elle a pour but, en fait, de faire des 6 points une espèce de réalité concrète, enfin de, en tout cas de favoriser
la mise en place,
la mise en œuvre, voilà, des 6 points, en faisant en sorte qu'on n'ait plus de menaces d'expulsion sur la gueule et que plutôt, au lieu de, enfin, on puisse continuer à se, en gros, à se battre contre un interlocuteur unique qui est l'État, plutôt que d'avoir à batailler sur tous les fronts contre plein de gens qui interviennent d'habitude sur ce que c'est que le foncier agricole, et ben voilà, c'est ça qu'on voudrait négocier, et c'est ça qui explique que ce soit au sein de l'AG des usages que que concrètement on décide c'est quoi qu'on veut obtenir comme accord pour favoriser la mise en œuvre des 6 points, quoi.
Que pour être précis, j'ai l'impression qu'un un gel du foncier, parce que c'est pas très clair comme expression, peut-être. Ça veut dire que pendant plusieurs années, dans ce qu'on demande, il n'y a pas de nouvelles installations sur du long terme. C'est-à-dire qu'il y a uniquement des baux précaires qui peuvent continuer, sauf pour les personnes qui, historiquement, ont refusé de vendre leurs terres et leurs fermes et leurs fermages, et qui, du coup, ces personnes-là vont pouvoir le récupérer. Mais que, hormis ces personnes-là, pendant donc ce temps qu'on a demandé, il me semble que c'est 3 ans, il n'y a pas de nouvelles installations pérennes, mais que plutôt il y aurait pas de redistribution ou une redistribution précaire, afin que pendant ces années-là, on puisse mettre en place le mode de fonctionnement de comment ces terres vont être gérées par le mouvement, par quel biais, de quelle manière, avec quel processus, outils juridiques et compagnie, et compagnie, et compagnie.
C'est ce qu'on appelle l'entité définitive.
Voilà.
Je trouve que c'est important de ne pas entretenir la confusion sur c'est quoi l'entité issue du mouvement. Et que pour moi, genre, l'entité issue du mouvement, c'est pas l'entité juridique, quoi.
C'est comment on s'organise,
c'est
pour
l'entité
le faire
politique
ensemble, quoi.
Et voilà, enfin, c'est, enfin, il y a un truc comme ça de, enfin, de pouvoir garder que une entité issue du mouvement, elle est pertinente si c'est un espace dans lequel on y prend des décisions politiques. Moi, mon objectif dans la vie, c'est pas d'avoir une société civile avec un bail emphytéotique, quoi. Enfin,
dans l'état actuel des choses, il y a des terres qui sont d'ores et déjà gérées par le mouvement. Et que si une attribution, même précaire, d'une de ces terres-là à des gens qui sont pas dans le mouvement, et ben déjà ça colle plus non plus, quoi.
Ce qu'on veut, c'est la gestion de l'ensemble des terres de la ZAD. Ça concerne 1650 hectares. Et cette gestion, elle se fait parallèlement à la demande du gel. Enfin, on est dans une situation extraordinaire, unique, où la DUP est tombée, la déclaration d'utilité publique, qui fait qu'on est dans une situation juridique qui est super complexe, avec l'État qui est propriétaire à certains endroits, parfois par le biais du Conseil Général, qu'il y a des situations particulières pour ce qui est de les personnes qui ont vendu leur propriété, les personnes qui ont été à l'expropriation sur leur propriété, celles qui ont touché l'argent, celles qui ont refusé de le toucher. Il y a, en ce qui concerne l'usage, les personnes qui ont cessé de louer, cessé leur bail à l'amiable, celles qui ont toujours refusé, celles qui ont touché l'argent ou pas. Donc aujourd'hui, il y a un flou juridique sur la situation foncière qui est partagé à la fois par le mouvement d'occupation, mais aussi par la Chambre d'agriculture et la préfecture, et que on s'est dit qu'il nous fallait bien 3 ans pour résoudre voilà, qui sont ces parcelles et faire face à des choses qu'on s'attend probablement à voir, comme des gens qui retrouvent la propriété de leurs terres sur lesquelles nous, on a des usages ou des habitats, quoi.
Que du coup, deux choses qui se portent sur cette négociation, c'est donc pas l'expulsion des occupants, occupantes, quels qu'ils soient sur la zone.
L'abandon de toute procédure en cours.
Y compris dans les lieux périphériques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas administrativement sur la ZAD, mais qui ont été occupés dans le cadre de la lutte contre le projet d'aéroport. L'amnistie.
Eh ben, Historiquement, les lois d'amnistie, elles ont souvent été prises dans la 5ème République, soit après 68, soit même après la guerre d'Algérie, que ce soit en 2002, enfin en tout cas jusqu'à Sarkozy, il y a eu des lois d'amnistie qui ont été prises. Une loi d'amnistie, c'est historiquement pris pour mettre fin à un conflit dans la sérénité. Là, c'est bon, on va amnistier toutes les personnes qui ont pris part à des conflits, ou en tout cas, on veut apaiser la situation politique. Donc, on amnistie des gens. Nous, ce qu'on demande, c'est l'amnistie pour toutes les personnes qui ont été incriminées dans le cadre de la lutte contre l'aéroport. La suppression des mentions à des fichiers comme le FNEG, mais aussi le TAJ ou les fiches S. Parce que, en fait, un des arguments portés, c'est de dire, en fait, l'aéroport n'est pas d'utilité publique. Les personnes qui se sont battues contre le projet d'aéroport, du coup, ne sont pas légitimes à être incriminées pour s'être battues à son encontre, grosso modo. Qu'on l'obtienne ou pas, c'est un moyen de visibiliser la criminalisation des militants au sens large, des gens en lutte, et pas seulement autour de la question de l'aéroport, mais aussi des mouvements sociaux qu'on a pu voir ces dernières années. Donc porter le fait de la systémisation des interdictions de territoire, des prises d'empreintes, du fichage, et de la criminalisation en général et de la répression judiciaire.
Et ça, c'est retiré de ton dossier une fois que l'amnistie est passée. T'as plus de dossier judiciaire, enfin, ton casier, il n'y a plus cette mention dedans, quoi. Mmh. Ah, on n'a pas tout dit.
On dira pas tout, mais en tout cas, sur la question de l'habitat, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est faire valoir comment on rentre dans le cadre, ou on fait que le cadre puisse s'adapter à nous, ou nous adapter au cadre. Enfin, moi, j'ai jamais appris autant d'acronymes de ma vie, mais dans le cadre des PLU et des PLUI, qui sont les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et les schémas de cohérence territoriale, appelés SCOT, ou les PPAD. Enfin, il y a des...
Non, les PADD.
Il y a tout ça qui existe, et que nous, pour l'instant, il n'y a rien qui existe pour qu'on soit plus ou moins viabilisés.
En gros, on fait des recherches pour comprendre quel cadre juridique existe d'ores et déjà, qui serait possible à mettre en place ici ou pas, et qui nous permettrait de continuer de vivre dans des cabanes, des yourtes, des caravanes, etc., etc., sans faire en permanence des infractions au code de l'urbanisme.
On pourrait résumer les enjeux politiques de ce qui est en train de se jouer en ce moment à la question de savoir, on a des pratiques. Est-ce qu'on pense que ce qui nous parle, c'est de maintenir ces pratiques et de les maintenir en gros au rapport de force avec donc une menace en fait permanente sur la tête de ces pratiques qui est donc la menace d'une répression policière et que finalement en fait on nous fasse rentrer dans le cadre à coups de marteau sur la tête, enfin de marteau, de tonfa sur la tête. Est-ce qu'on pense qu'on arrive, enfin que ce qui nous parle c'est de mettre plein d'énergie à nous organiser collectivement pour faire en sorte que cette répression-là, elle soit pas possible, mais voilà, c'est une espèce de truc de bras de fer permanent. Ou est-ce qu'on pense qu'il y a un coup à jouer pour que ces pratiques, elles restent les mêmes, sauf qu'au lieu d'être pirates, elles soient légales, que du coup, le bras de fer, il puisse se déporter ailleurs. Il y a juste des visions hyper différentes. Est-ce que c'est possible de gagner le bras de fer ou est-ce que c'est pas possible de gagner le bras de fer? Est-ce que c'est possible que, sans être pirate, ces pratiques elles puissent rester les mêmes ou est-ce que forcément elles vont devoir perdre en puissance subversive? Et il y a aussi des visions différentes de qu'est-ce qui est politiquement défendable, etc. Y a des gens à qui ça fait pas de sens d'avoir des pratiques si elles sont pas pirates. Et des gens à qui ça fait pas de sens de être à la castagne alors qu'on pourrait ne pas l'être, enfin, qui pensent que c'est vraiment du caprice et qui n'ont pas envie de mettre de l'énergie pour se battre pour ça. Donc voilà, on est là-dedans et on essaye d'inventer des façons de s'en sortir, mais c'est pas très facile, quoi.